En esprit et en vérité 06 Le culte est le repas du Seigneur. L'importance, la signification et le mode d'observance du repas du Seigneur ressort des considérations suivantes. 1. La maison et la table du Seigneur Jésus a parlé à Israël en lui présentant Dieu comme Père, le royaume comme la maison du Père et les bénédictions comme la table, ou le repas, du Père. La vie spirituelle, enseigne Jésus, se nourrit à la table de Dieu et s'abreuve à l'Esprit de Dieu. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les deux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Matthieu 7h11, confère Matthieu 5-7. 10h29, Marc 14h36, Luc 6h36. 15h12, Jean 1h18. 4h23. 6h32, 37. 8h42. 14h23, etc. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, 2, confère. Luc midi 35-40, Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des deux. Matthieu 8h11, confère Luc 14h15, 16, Marc 7h27, 28, Luc 22h30, 2, Jésus est lui-même nourriture et breuvage spirituel. La vie spirituelle s'alimente et ne peut subsister qu'en Jésus lui-même qui a reçu du Père la vie éternelle, Jean 5h26. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, Jean 6h33, 35, 51, scandalisé par des paroles dont il ne comprenait pas la vérité, 32, table portée et l'application spirituelle, ceux-là même qui avaient suivi Jésus le quittèrent, en disant, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jean 6, 60. Avec les Juifs qui étaient présents ils se demandaient, comment peut-il donner sa chair à manger? Jean 6h52. Or, le fait de rechercher une signification matérielle à ces paroles manifestait l'incrédulité des auditeurs. Jésus répond donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jean 6, 63, 64, confère Matthieu 16h11, 12, Jean 6h26, 29. 3. Accomplissement des promesses faites aux pères en instituant le geste de la fraction du pain, Jésus voulait, tout d'abord, enseigner une vérité spirituelle, il enseigne dans ce cas par des paroles mais aussi par un geste. Assis à table avec ses disciples, il brise le pain. Ceci veut dire, c'est par mon corps brisé que vous pouvez être assis à la table des bénédictions divines avec Abraham, Isaac, Jacob et avec moi. La promesse faite au Père est accomplie, lorsqu'il dit du pain rompu, prenez, mangez, ceci est mon corps, il annonce sa mort prochaine et la participation que les disciples peuvent déjà avoir à cette mort. Et lorsqu'il dit, buvez-en tout, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, il annonce aussi sa mort prochaine qui scellera la nouvelle alliance, alliance dans laquelle Dieu offre la rémission des péchés. Le repas est donc une préfiguration avant même de devenir une commémoration. Ce repas, plus que toute autre chose, marque le lien qui unit, par la croix, ceux qui reçoivent le pardon en étant encore sous l'ancienne alliance et ceux qui reçoivent le pardon sous la nouvelle alliance. En d'autres termes, dans ce repas, la nouvelle alliance n'est encore que préfigurée lorsque Jésus l'institue. Ainsi, Dieu rassemble à une même table et à un même repas spirituel Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres, puis finalement toute l'Église. La table, ou le repas, du pardon divin est enfin préparé pour tous ceux qui veulent être disciples de Jésus. La promesse faite au Père est enfin réalisée, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9h15. Le repas du Seigneur proclame que la promesse du pardon est accomplie pour tous ceux à qui elle était destinée, c'est-à-dire les 33 patriarches et leur postérité spirituelle, confère Matthieu 8h11. 4. Rupture avec l'ancienne alliance faite au Sinaï en instituant le geste de la fraction du pain, Jésus voulait enseigner une autre vérité spirituelle. Puisque le repas du Seigneur déclare l'accomplissement des promesses faites au Père, promesses faites avant le Sinaï, confère Galates 3h15-17, il marque, du même coup, une rupture avec l'alliance conclue au Sinaï et qui fut donnée temporairement. Le repas du Seigneur entame et célèbre déjà la rupture définitive avec l'ancienne alliance, sous laquelle on célébrait un culte, la Tréo, qui n'était que l'image et l'ombre des choses à venir, Hébreux 8, 5. Nous avons maintenant accès dans le très saint lieu, au-delà du voile, à la table dressée par le Seigneur lui-même, Hébreux 10h10, confère à Corinthiens 10h21. Ceux qui n'étaient pas d'Israël, les païens, les incirconcis, sont dorénavant concitoyens de la maison de Dieu, Éphésiens 2h22, Hébreux 3, 6. L'Église est la maison de Dieu, 1 Timothée 3h15, et dans cette maison nous trouvons la table du Seigneur et sur cette table la coupe et le pain auquel tout participe, et ce pain est sans levain de même que Christ fut sans levain et que l'Église elle-même doit être sans levain, confère à Corinthiens 5, 6 à 8. Toutes ces choses ne constituent pas de vagues analogies ou de simples emblèmes. L'apôtre Paul parle gravement du repas du Seigneur à une assemblée qui doit être mise en garde et corrigée, à une assemblée qui oublie ce qu'elle est aux yeux du Seigneur, le temple et la maison de Dieu. Dans la maison du Seigneur, la table, et non l'autel, a une place prépondérante car c'est un lieu qui réunit les disciples, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10h18. Quand l'Église oublie ce qu'elle est, et comment elle doit vivre, elle se condamne elle-même lors même qu'elle participe au pain et à la coupe du Seigneur, 1 Corinthiens 11h27 34. 5. Le pain est rompu dans l'institution du repas, le fait de rompre le pain est souligné, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22. 1 Corinthiens 11. Dans tous ces textes le pain est rompu après une action de grâce, puis il est distribué à tous les disciples. Ainsi, dès le jour de la Pentecôte, les nouveaux convertis persévéraient dans la fraction du pain, Teklazet ou Artou, Actes 2h42.1, 34, 6, le premier jour de la semaine, dimanche, lorsque Jésus institua la fraction du pain, il ne donna aucune précision quant au lieu ou au jour de son observation future. Comme nous l'avons dit, la fraction du pain, lors de son institution, n'était pas encore une commémoration, mais une préfiguration. Avant que les disciples ne puissent commémorer la mort et la résurrection du Seigneur, il fallait que le Seigneur meure et qu'il ressuscite. Lors de l'institution du repas, Jésus rassura ses disciples en leur annonçant qu'il pourrait à nouveau partager avec lui le pain rompu et le fruit de la vigne, Matthieu 26, 29, Marc 14h25, Luc 22h30. Or, comme il l'avait annoncé, et cela le jour même de sa résurrection, le Seigneur rompit à nouveau le pain avec ses disciples, ce fut d'ailleurs par ce geste précis que les disciples d'Emmaüs le reconnurent, Luc 24h30, confère 22h19. Jésus demeura parmi ses disciples pendant 40 jours, pratiquement jusqu'au jour de la Pentecôte, Actes 1, 3, 2, 1. Pendant ces 40 jours, il leur parla du royaume de Dieu, qui allait bientôt se manifester avec puissance au jour de la Pentecôte, Actes 2. Au bout de ces 40 jours, il fut enlevé au ciel du milieu d'eux, Actes 1h11. Environ 3000 personnes se convertirent le jour de la Pentecôte suite à la prédication de Pierre. L'auteur des Actes nous représente ces convertis comme formant aussitôt une église et comme persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, ou participation, partage, fraternel, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous savons donc que Jésus promit de rompre à nouveau le pain avec ses disciples après sa mort, ce qu'il fit le jour même de sa résurrection. Nous savons, en outre, que les disciples persévéraient dans la fraction du pain dès l'établissement de l'Église, de à la fraction du pain est décrite comme un acte spécial par l'adjonction de l'article défini, il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un simple repas mais d'une occasion spéciale. On peut ainsi comparer Actes 2h42 et 46. Dans le verset 42 nous lisons, la fraction du pain, teklazet ou artou, dans le verset 46 nous lisons, rompant du pain dans les maisons, klon teka wakon arton. Le premier verset se rapporte à la fraction du pain, le second au repas pris en commun par les disciples, en 1 Corinthiens 10 et 11, les deux choses sont associées. La même remarque peut être faite à propos d'Actes 20, 7 et 11. Le verset 7 se réfère à la fraction du pain, théo accent grave clasé arton, le verset 11 au fait de rompre du pain pour manger un repas, kai clasa arton. 2 Il persévérait, du grec proskartero, tenir fermement à, adhérer à, persister dans, persévérer dans, arme des cinq riches, Grey English Lexicon. 35. À la fin du troisième voyage missionnaire de Paul, 53 à 57 après J.C., l'apôtre et ses compagnons durent passer à Troas. À cette occasion, Luc rapporte ce fait, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, 3. Nous voyons, par ce texte, que les disciples de Troas, ainsi que Paul et ses compagnons s'assemblèrent pour la fraction du pain le premier jour de la semaine, 4 Lorsqu'il vint à Troas, l'apôtre Paul était pressé d'arriver à Jérusalem, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, Actes 20h16. Malgré cette hâte, l'apôtre demeura 7 jours à Troas et ne repartit que le lendemain du premier jour de la semaine, Actes 20, 6,7. Cette attente confirme l'importance que revêtait ce jour aux yeux de l'apôtre, importance confirmée par le fait que les collectes se faisaient aussi ce jour-là, Corinthiens 16, 3, 7, repas du Seigneur ou Eucharistie. Dans la théologie catholique traditionnelle, le repas du Seigneur, appelé l'Eucharistie, est avant tout une action personnelle du prêtre par laquelle il affirme son rôle sacerdotal. Lorsqu'il instituait la fraction du pain, le Christ, dans cette optique, établissait, en fait, les prêtresses du Nouveau Testament. Dans le Concile de Trente, le pouvoir d'absoudre les péchés va de pair avec le pouvoir de consacrer, et ces deux se trouvent entre les mains du prêtre. Ce même concile prononce l'anathème à l'encontre des hérétiques, qu'on appelle aujourd'hui les frères séparés, qui ne voient pas de sacerdoce visible et extérieur dans le Nouveau Testament et pour qui la coupe et le pain ne sont pas le sang et le corps véritable du Seigneur 5. Les décrets du Concile Vatican II vont aussi dans ce sens, les prêtres appliquent, dans le sacrifice de la messe, l'unique sacrifice du Nouveau Testament, 6.3 le premier jour de la semaine, taïamieu aïton sabbaton, placé en début de phrase, ce membre de la phrase revêt, en grec, une valeur emphatique. Mou étions réunis pour rompre le pain. Littéralement les disciples s'étant assemblés pour rompre le pain, synegomenon ton mettetant tout clasé arton. 4. Paul fut le premier à visiter cette ville et dû enseigner cette pratique, confère. Actes 16, 8 et 2 Corinthiens 2h12. 1 Corinthiens 11h23. 5 Concile de Trente, 23e session, chapitre 1 S'il humaine gentilhomme, chapitre 3. 36, c'est dire qu'en dehors du prêtre et de l'Eucharistie il ne peut y avoir ni pardon ni rémission des péchés. Dans le catholicisme, l'Eucharistie n'est pas seulement le sacrement le plus important pour les fidèles, il est le moyen de réconcilier les infidèles à Dieu, il est le sommet et la source de toute l'évangélisation, c'était pour Paul VI il n'est pas de messe qui ne soit offerte pour le salut du monde entier et non seulement pour le salut de quelques personnes, 8 ainsi, l'Eucharistie est la source même du salut et de l'unité des chrétiens. Elle est la fontaine de vie où nous trouvons de quoi nous purifier et nous fortifier. C'est par l'observation de la dévotion eucharistique qu'il pourra y avoir un retour à l'unité de la foi et de la charité, toujours selon la même encyclique. Tant que l'on croit à une fonction purificatrice ou expiatrice du pain ou de la coupe, tant que l'on accorde une place sacrée à celui qui distribue le pain ou la coupe, c'est qu'il demeure en nous un fond de catholicisme romain. Les disciples rompent le pain et boivent la coupe en reconnaissance du pardon qu'ils ont reçu dès leur conversion et non pour être lavés de leurs péchés. 9 En effet, les Écritures associent le pardon, ou la rémission, des péchés uniquement à la conversion ou aux phases de la conversion que sont la foi, la repentance et le baptême en Christ, Marc 16h16, Actes 2h38, Romains 10, 9, 10, Actes 22h16, Confère à Corinthiens 6h11, Éphésiens 5h25-27, Tite 3, 4 à 7. Ceux qui ont été baptisés, c'est-à-dire immergés, plongés dans l'eau, ont revêtu Christ, ont été transportés dans le royaume de Christ, Galates 3h27, Colossiens 1h13, 14. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ il n'y a donc maintenant aucune condamnation, Romains 8, 1. 7 Presbytre Rome Ordini, notes 13 et 14. Puis lettre encyclique sur la doctrine et le culte de la Sainte Eucharistie septembre 1965. 9 De semble que certains protestants ne diffèrent pas de la position catholique sur ce point. Selon la promesse du Christ, chaque croyant membre de son corps reçoit dans l'Eucharistie la rémission de ses péchés et la vie éternelle, et il est nourri dans la foi, l'espérance et l'amour, vers une même foi eucharistique qu'accord entre catholiques et protestants, page 42, les presses de Thésée, 1972. 37, c'est par la rémission des péchés, accessible en Jésus-Christ, et accordée à la conversion, que se manifeste la richesse de la grâce de Dieu et la puissance de la croix, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous, Éphésiens 1, 7, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1h13, 14, dès lors, tout acte d'adoration, de service, ne peut être en vue d'obtenir la rémission des péchés, la justification, la réconciliation avec Dieu, puisque ceux-ci sont déjà accordés en Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot Eucharistie signifie action de grâce, par le repas du Seigneur on rend grâce pour le fait que Dieu nous a remis et nous remet tous nos péchés en Christ. 10 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux midi 28, 29, l'erreur qui consiste à attribuer une valeur expiatoire, purificatrice, au pain est très ancienne. Ignace, évêque d'Antioche, 1er siècle, parle déjà d'un autel dans l'église sur lequel le sang de Jésus est offert par l'évêque, 11 d'ailleurs, et toujours selon Ignace, l'évêque doit être suivi comme Jésus-Christ, et les prêtres, presbytérois, anciens, comme les apôtres. Celui qui honore l'évêque honore Dieu, celui qui agit à l'insu de l'évêque fait un sacrifice au diable, 12-10 à moins de comprendre la rémission des péchés, la justification, la réconciliation non comme une déclaration formelle du pardon divin, confère Romains 4, 7, 8, 23 à 25, mais comme une œuvre rénovatrice intérieure, non comme un acte de justification mais comme une œuvre de sanctification, non comme une chose imputée mais comme une chose méritée. Pour le Concile de Trente, qui voulait contrer les enseignements de la Réforme, l'homme n'est pas déclaré juste par l'offre divine de la rémission des péchés, mais il est rendu juste par une œuvre de rénovation intérieure, c'est-à-dire par la sanctification, décret sur la justification 6e session du Concile de Trente. Dans ce décret, l'anathème est prononcé à 33 reprises à l'encontre de ceux qui n'adhèrent pas à cette conception du salut. 11 Ignace, Épître aux Philadelphiens, IV. 12 Ignace, Épître aux Éphésiens VI, 1, aux Smyrniens VI, 1 et X, 1. Dans les écrits d'Ignace, on constate déjà une distinction entre l'évêque et les anciens, qui, plus tard, deviendront les prêtres. 38, la question de l'Eucharistie est liée à celle du sacerdoce. On constate, dès les premiers siècles de l'Église, une tendance à considérer les anciens, presbytérois, qu'on choisit de plus en plus jeunes, comme des prêtres, et à dresser un autel dans l'Église sur lequel, croit-on, Christ est à nouveau offert en sacrifice. Vu sous cet angle, le repas du Seigneur exige la présence d'une prêtrise dans l'Église. Renoncer à une conception sacrificielle de l'Eucharistie reviendrait à renoncer à une conception sacerdotale des ministères. C'est en tout cas l'avis de Thomas d'Aquin, puis donc qu'il appartient au prêtre de consacrer le corps du Sauveur, c'est aussi à lui qu'il appartient de le dispenser. Ensuite, parce que le prêtre est constitué médiateur entre Dieu et les hommes. Pour la raison que nous venons de donner, la dispensation de l'Eucharistie appartient à celui-là même qui a le pouvoir de la consacrer. De même que le diacre participe à quelques degrés à la puissance illuminatrice du prêtre, puisqu'il dispense le sang du Seigneur, le prêtre participe aussi à la puissance que possède l'évêque de dispenser les choses qui perfectionnent le chrétien, en tant qu'il distribue le sacrement, lequel perfectionne l'homme en lui-même, dans ses rapports avec Jésus-Christ. Quant aux choses qui perfectionnent l'homme relativement aux autres hommes, la dispensation en est réservée à l'évêque. 13. La pratique quotidienne de l'Eucharistie n'est que l'aboutissement logique de cette relation entre le sacrement et la rémission des péchés, relation envisagée très tôt dans la chrétienté, ainsi qu'en témoigne l'enseignement d'Ambroise, évêque de Milan. 4e siècle, ô chrétien, reçois chaque jour ce qui doit être pour toi l'aliment de chaque jour. Celui qui n'est pas digne de le recevoir tous les jours sera-t-il digne davantage de le recevoir une fois l'an? Quoi? Job offrait chaque jour le sacrifice pour ses enfants, et vous qui savez bien que le divin sacrifice, toutes les fois qu'on l'offre, renouvelle la mort, la résurrection, l'ascension du Seigneur, la rédemption du péché, vous refusez de prendre le pain quotidien de votre vie? Ah, quand on est blessé, on appelle le remède. Tout pécheur que nous sommes, nous portons une blessure, allons chercher le remède dans l'Auguste 13 Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, traité de l'Eucharistie, F. Lachat, tome XII, édition Louis Vivet, Paris 1859. 39, sacrement, 14. Ajoutons qu'il est impossible que les consciences ne restent longtemps marquées par de telles conceptions. C'est pourquoi, dans les pays empreints de catholicisme, il est important d'enseigner avant toute chose la valeur éternelle et suffisante du sacrifice et du sacerdoce de notre grand prêtre et médiateur Jésus-Christ, Hébreux 7, 8, 9,10. 14 Ambroise, de Sacra. Lib. V. Cap 4 cité dans Histoire de Saint-Amboise, par l'abbé Bonnard, Paris 1827, page 89. Comme nous pouvons le constater dans cette citation, la conception sacramentelle du repas du Seigneur a eu pour conséquence qu'on l'observe à trop peu, une fois l'an, ou trop souvent, tous les jours, et même plusieurs fois par jour. De nos jours encore, certains craignent d'observer le repas du Seigneur chaque dimanche et l'observent une fois par mois ou encore moins souvent.